Dans un arrêt rendu mercredi, la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail la relation entre Uber, le géant américain des véhicules de tourisme avec chauffeur, et l'un de ses anciens employés jusque-là considérés comme indépendants. C'est pour tenter de comprendre l'impact de cette décision que nous avons fait appel à l'économiste du travail Philippe Askenazy. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes notamment l'auteur en 2019 chez Odile Jacob de Partager les richesses, un livre dans lequel plusieurs chapitres portent sur les mutations du travail, dont les plateformes. Alors expliquez-nous comment vous analysez cette décision de la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire sociale ?
Alors, probablement, parce que il y a un mouvement mondial contre ce que l'on appelle en France l'ubérisation, qui n'est pas le terme qui est employé à l'étranger, notamment dans le berceau même d'Uber. On a tendance plutôt à employer le mot de gig economy, qui est une contraction de engagement, engagement en anglais, et qui est qu'on peut tout à fait utiliser aussi en français. Et une des volontés même des Américains d'employer ce terme, c'est de bien faire comprendre que ce terme de gig economy est très ancien. Il remonte à l'époque des chanteurs de jazz américains, où on composait un orchestre de jazz un petit peu au gré à gré, en engageant des artistes pour, disons, faire comprendre que c'était pas une nouveauté dans le capitalisme, que ça s'était déjà vu. Ce que je développe dans mon ouvrage, c'est que ça s'est aussi déjà vu dans le capitalisme français du 19e siècle. Il n'y avait pas de nouveauté, et que, disons, il fallait sortir ce voile pour s'apercevoir que finalement, on avait une mécanique capitaliste très classique qui essayait de rentrer dans les interstices du droit pour faire une exploitation de travailleurs. Alors, si on reste en Californie, Uber se trouve dans une situation bien plus délicate qu'en France, parce que avec la décision de la Cour de cassation, c'est pas une automaticité que tous les chauffeurs vont
désormais être considérés comme salariés.
Il faudrait aussi que des chauffeurs qui sont indépendants demandent à devenir salariés, sauf si la sécurité sociale s'en mêle et réclame des cotisations sociales. Dans le cas de la Californie, l'État de Californie a passé une loi qui est depuis le début du mois de janvier en place, et qui oblige l'ensemble des plateformes de prestations de services de salarier les travailleurs à travers ces plateformes. Donc, voyez, d'une certaine manière, la situation française n'est que dans le vent de l'histoire actuelle. Il n'y a pas que en France et aux États-Unis. Uber est empêtré dans des procédures judiciaires en Suisse, au Royaume-Uni, à travers le monde. Et c'était une situation que je dirais inexorable. Alors, ce qui est intéressant avec la décision de la Cour de cassation, c'est que c'était une décision extrêmement détaillée, très précise et très large. Et d'ailleurs, je pense que la Cour de cassation a eu conscience de l'importance de sa décision, parce que si vous allez sur son site, il y a une note d'analyse qui est traduite en espagnol, qui est traduite en anglais, qui sont en fait les trois langues de travail de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire l'organe de l'ONU chargé du travail. Je pense que c'était aussi un message mondial qu'a voulu donner la Cour de cassation.
On peut en lire un court extrait, Philippe Askenazy. La note dit « Le chauffeur qui a recours à l'application d'Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d'exécution de sa prestation de transport. L'itinéraire lui est imposé par la société, et s'il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées. La destination n'est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu'il ne peut choisir librement la course qui lui convient, etc. etc. » Ça veut dire que la Cour de cassation revient sur toute la justification d'Uber pour déterminer le statut dit indépendant ou d'auto-entrepreneur de ces
chauffeurs. Oui, alors c'est ce qui embête en quelque sorte, ce qui est particulièrement embêtant entre guillemets pour Uber, mais en fait aussi pour beaucoup de plateformes de prestations de services. Ça peut tout à fait s'impliquer aussi aux livraisons de repas. Alors il y a Uber Eats qui est déjà présent, mais ça peut s'appliquer à Deliveroo. Ça peut s'appliquer aussi à des activités de conciergerie qui sont très fortement liées au développement de plateformes comme Airbnb. Parce que il liste toute une série d'éléments, alors que jusqu'à présent Uber s'était trouvé souvent avec des décisions juridiques qui concernaient un point de sa relation de travail avec ses opérateurs. Et donc, ce que faisait Uber, c'est qu'il modifiait légèrement ses conditions en disant, ben, vous voyez, on suit la décision du tribunal, donc on peut rester dans des prestations de services, donc un travail indépendant. Et là, la liste est tellement longue, en quelque sorte, que c'est l'ensemble du business de Uber qui doit être revu.
C'est pour ça que c'est embêtant. Vous disiez,
c'est embêtant pour Uber. Mais je pense que ça ne signe pas du tout la mort des VTC en général ou de ce type de prestations de services. Je pense que de toute manière, il y aurait eu nécessité d'adaptation pour ces acteurs. Parce qu'une autre des grandes difficultés, si on reste concentré donc sur ce Uber, il y a une bonne raison aussi d'être concentré sur Uber, c'est le leader mondial. On considère que sur ses prestations de services, probablement, il emploie une personne sur deux à travers le monde avancé qui sur ce type de relation. Au niveau mondial, Uber, c'est entre 1 et 2 millions de chauffeurs. Donc, vous voyez, si c'était requalifié en salariat, ça serait une des plus grandes entreprises mondiales. Donc, si on se concentre sur le cas d'Uber, une de ses difficultés aujourd'hui, c'est aussi une problématique de qualité. Dans le cas de Londres, il a perdu sa licence, non pas pour des questions salariées, non salariées, mais parce que les autorités londoniennes avaient listé toute une série de manquements à la sécurité, à la qualité. Il y a de très nombreuses plaintes, des problématiques aux États-Unis de
viol,
d'agression sexuelle. On l'a bien vu récemment dans le cas français, des chauffeurs sans papier qui utilisaient des prête-noms, des fausses cartes, etc. Et donc, à un moment données. Et c'était ce que l'on avait vu au 19e siècle également, lorsqu'on avait eu des formes de plateformes qui avaient émergé. Eh bien, cette nécessité de garantir une sécurité, une qualité, eh bien, oblige à avoir une vraie forme de subordination et donc, en fait, de salarier à un moment ou à un autre ces travailleurs. Et donc, je pense que sans même la moindre décision juridique, Uber aurait, ces acteurs-là auraient été obligés, alors certes dans une transition peut-être plus longue, de se transformer en une entreprise avec essentiellement du salariat.
Alors, Philippe Askenazy, je vais vous poser cette première question. Est-ce que c'est une victoire sociale de façon un peu provocatrice pour vous lancer sur le débat? Est-ce que, si je la reformule, vous y verriez à minima, le signe de la modernité du salariat à un moment où, socialement, disons, il est question de le remettre en question parce que on met en valeur le statut d'auto-entrepreneur.
Oui. Alors ça aussi, c'est une particularité française. Lorsqu'on se place au niveau mondial, plutôt l'OCDE, le salariat n'a jamais été aussi important. Si vous prenez le Japon, les indépendants, c'est à peine 2% de la population active. Donc il y a très peu de pays où les indépendants, l'auto-entrepreneuriat progresse, c'est essentiellement la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, des pays où ce sont les gouvernements qui ont pris des décisions de mettre en place des statuts particuliers. Donc vous parliez d'auto-entrepreneur, c'est exactement cela. On a mis un statut fiscal et social qui rend plus attractif ce régime par rapport au salariat. Je dirais que la réforme des retraites, c'est un peu cela aussi, c'est-à-dire qu'en mettant tout le monde sous le même chapeau, on réduit l'avantage relatif d'être salarié. Mais c'est véritablement d'une certaine manière une particularité française, ce développement tous azimuts de l'auto-entrepreneuriat, qui là aussi pose des problèmes de soutenabilité, parce que lorsque des personnes jeunes, 30 ans, effectivement ayant des difficultés à trouver un emploi salarié classique parce qu'ils sont discriminés sur ce qu'on appelle marché primaire du travail, rentrent dans ce type d'activité, ils rentrent souvent dans ce type d'activité avec des horaires de travail extrêmement longs dans la semaine, on parle de 50, 60 heures, et dans un horizon de 10-15 ans, ces personnes-là avec une protection sociale limitée, avec l'arrivée de problèmes de santé, eh bien, on aura une question de société très importante à cet horizon. Donc, autant que très vite, on se pose les bonnes questions, est-ce que c'est un modèle soutenable ou pas ?
C'est ce qu'essaye de faire le gouvernement. Vous disiez, il tente de définir un statut pour ne pas opposer l'auto-entrepreneuriat et la protection sociale. Par exemple, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était invitée sur Europe 1 mercredi matin. Écoutez ce qu'elle dit par rapport à ce statut.
Aujourd'hui, on a une zone un peu de gris, un peu de flou, puisque les travailleurs des plateformes, la grande majorité veulent être indépendants, ils veulent la liberté, mais ils veulent, à juste titre, aussi avoir des protections. Et donc, je pense que la Cour de cassation, elle montre bien ce qui est ma conviction, c'est qu'il faut inventer des règles qui permettent la liberté et la protection pour protéger les travailleurs et pour ceux qui veulent être indépendants, qu'ils puissent rester indépendants en étant protégés, tout en donnant un cadre qui est clair pour les plateformes, parce qu'on ne peut pas non plus gérer des activités si c'est pas clair.
Voilà, pour l'instant, on n'y est pas. Donc, la zone est floue entre liberté et protection.
Oui, mais justement, j'en suis... Alors, c'est certainement entre liberté et protection, il y a des éléments de progrès à faire. Mais à ce moment-là, pourquoi uniquement les travailleurs des plateformes et pas l'ensemble des travailleurs indépendants ? Puisqu'on parlait du statut d'auto-entrepreneur, vous avez beaucoup d'auto-entrepreneurs qui font des travaux, mettons, de peinture, de jardinage, etc., sans nécessairement passer par ces plateformes. Donc, à nouveau, cette concentration sur la question des plateformes, et je pense une erreur. Et là aussi, enfin, peut-être que là, Muriel Pénicaud, elle est dans des débats qui étaient des débats américains d'il y a 5-6 ans où on parlait, il y a une zone grise, il faut faire un troisième type de statut, etc. Tout ça est complètement balayé aujourd'hui et n'est plus du tout présent dans les débats. Donc, je suis pas certain que, à nouveau, toujours cette idée un petit peu, il faut être moderne. Non, être moderne, c'est plutôt réfléchir à qu'est-ce que l'on veut comme type de développement des plateformes. Et certainement, l'état du droit aujourd'hui est suffisant. C'est pas nécessaire de faire encore de nouvelles lois à l'infini. Peut-être là aussi, c'est intéressant de revenir sur des exemples historiques. Au début des années 1980, il y avait l'histoire Tupperware. Tupperware qui...
Le
nom de ces boîtes qui se vendaient de manière particulière et qui continuent à se vendre de manière particulière à travers des réunions qui sont eues par des... commissionnaires de vente qui se font chez des particuliers où on rassemble une dizaine, une vingtaine de personnes et on fait la publicité pour ce type de boîte. Au début des années 1980, il y avait l'idée que ça allait être le futur du commerce français. On parlait de tupperwareisation du commerce. On allait vendre uniquement de cette manière-là. Voilà, on allait vendre, que ce soit des machines à laver, tout par ces groupes autour de la ménagère de moins de 50 ans. Voilà, c'était les termes de l'époque. Et il y avait une réflexion, est-ce qu'on change le droit du travail pour pouvoir permettre ce développement de ce nouveau commerce ? Alors finalement, ce qui a été décidé, c'est effectivement de changer le droit. Il y a eu un statut particulier qui a été construit pour ce type de personnel, mais au bout du bout, il n'y a pas eu de tupperwareisation du commerce. Donc c'est une sorte un petit peu d'habitude en France, on se dit « ah ben il y a quelque chose de nouveau, il faut changer le droit ». Non, ça sert à rien, je pense, de faire une multiplicité de lois. Il faut plutôt se projeter sur moyen-long terme. Quel va être le business model qui fonctionne bien pour ce type de plateforme ? Et je crois que le business model du futur, c'est plutôt retourner à une idée de grande entreprise, en quelque sorte, et de salariat.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
On retrouve notre invité Philippe Askenazy, qui est économiste, chercheur et chercheur au CNRS. Juste un mot, avant de passer à la question de la recherche, puisque ça va nous permettre la transition, Philippe Askenazy, sur la réforme des retraites, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, disant finalement c'est un petit peu ce statut, cette recherche, disons, d'un bon statut, d'un bon cadre entre liberté et protection. C'est un peu comme la question de la réforme des retraites aujourd'hui. Il se trouve que vous avez été auditionné mercredi avec deux autres d'autres économistes par la Commission des affaires sociales du Sénat, qui demandaient des réponses claires et précises face à un projet auquel, il faut bien le dire, personne ne comprend plus rien et qui a malgré tout été adopté à l'Assemblée nationale, dont une partie a été soumise au 49-3. Qu'avez-vous dit à ce stade du débat?
Oui, bon, il y avait beaucoup d'éléments. On est resté de 2 heures avec les sénateurs. D'ailleurs, un sénateur avait bien résumé la chose en disant « plus on se plonge, plus on se noie ». Effectivement, nous étions un petit peu dans... On nous posait des questions, quel serait le coût budgétaire de cette réforme, et on était bien incapable de donner des chiffres précises. La seule chose qu'on pouvait dire, c'est que ça n'était pas présent dans les documents que le gouvernement avait pu transmettre aux assemblées. Et on soulevait les différents chausse-trappes. Donc moi, personnellement, j'avais soulevé la difficulté pour les collectivités locales vont devoir à un horizon 2025-2026 payer des cotisations sociales employeurs sur les primes de leurs agents, ce qui peut représenter des sommes de l'ordre de 1,5 milliard d'euros pour nos mairies, nos régions, sommes qu'elles n'ont pas aujourd'hui et sommes sur lesquelles le gouvernement n'a pas donné d'engagement. Donc c'est plutôt l'ensemble des points noirs, aveugles de la loi que nous avons mis en évidence.
Et cette question de la réforme des retraites touche de plein fouet les chercheurs, les universitaires, les agents de la fonction publique, hein, pour le dire d'un mot. Aujourd'hui, l'État paie 75% des cotisations sociales sur les salaires des fonctionnaires. Après la réforme, il n'en paiera que 28%, ça veut dire énorme perte de salaire, Philippe Askenazy?
Oui, pas exactement. C'est déjà le mouvement des chercheurs n'est pas né de la problématique des retraites. Donc je vais y revenir, mais commençons par les retraites. Aujourd'hui, les chercheurs, comme les enseignants du secondaire et comme les enseignants chercheurs du universitaire, sont ce qu'on dit des fonctionnaires peu primés. Donc les primes sont limitées, et avec la réforme telle qu'elle est construite aujourd'hui, en gros un chercheur, puisqu'on parle du CNRS, s'il n'y a pas d'augmentation de leur rémunération, perdrait un tiers de sa pension. Un nouveau chercheur, enfin né avant 1975, etc. Donc il y a une problématique d'attractivité qui est absolument majeure, et sur lequel le gouvernement donne des engagements mais extrêmement flou. Alors, parmi les éléments qui lui permettraient de gagner en quelque sorte de effectivement augmenter les salaires, c'est que aujourd'hui les cotisations que paye l'État pour ses fonctionnaires civils, ils sont de 75%, ce qui ne correspond absolument pas à la future pension de ces fonctionnaires, mais du paiement des fonctionnaires à la retraite aujourd'hui, donc des anciens postiers, etc. Or, avec la réforme, l'État va progressivement payer de moins en moins, puisqu'on va tomber, c'est pas 28, on va tomber à 17%. Donc de moins en moins, et est-ce que ce moins en moins, finalement, il va l'utiliser pour réduire les déficits publics, réduire les impôts, ou bien pour payer plus ses fonctionnaires? C'est un mystère total aujourd'hui.
Et vous disiez que cette réforme des retraites n'était pas ce qui avait mis les chercheurs et les universitaires en émoi, mais disons que ça n'arrange pas les choses en ce moment. Et en effet, et là je m'adresse à vous Philippe Askenazy en tant que membre du comité d'éthique du CNRS, puisque ce comité d'éthique vient de publier une contribution inquiète, disons, hein, sur la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche qui n'est pas encore présentée, mais qui doit l'être en tous les cas début avril, nous dit-on maintenant, et c'est cette loi dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose, mais qui a fuité, pour le dire comme ça, qui a pour le coup fait descendre un certain nombre de chercheurs et d'universitaires avant-hier dans la rue. Expliquez-nous pour quelles raisons, selon vous.
Oui, alors, en fait, il existe déjà une loi. C'est la loi de transformation de la fonction publique qui a été publiée au mois d'août 2019. Et en fait, la loi de programmation de la recherche, elle doit avoir un volet budgétaire, mais des promesses, c'est pas la première fois qu'on a des promesses. En 2003, on avait déjà eu des promesses mirifiques. Ça sera les mêmes, en quelque sorte. Mais, en fait, cette loi de programmation de la recherche va avoir l'adaptation pour le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur de cette loi de transformation de la fonction publique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi de transformation de la fonction publique? Il y a la possibilité pour les employeurs publics de très largement précariser. Alors on ne parlera plus de fonctionnaires, mais des agents publics. On va pouvoir recruter des contractuels sur des séries de contrats courts, mais pas du tout comme dans le privé. On pourra aller jusqu'à 6 ans sur ce type de contrat. On pourra diminuer le nombre de postes de titulaires fonctionnaires pour les remplacer par ces contractuels. Donc finalement, la loi de programmation va être l'adaptation. Elle peut aller dans un sens de restreindre la possibilité de précarisation, ou bien au contraire faire une explosion de la précarisation. Et ça, si vous voulez, au sein du comité d'éthique du CNRS, donc il y a un organe qui est consultatif et qui peut s'auto-saisir, une de nos préoccupations essentielles est celle de l'intégrité, de l'éthique, et donc des chercheurs, et au bout la confiance dans la science. Vous voyez, on parle beaucoup de fake news, etc. C'est important d'avoir une confiance dans la science et une confiance dans le monde de la recherche. Or, beaucoup de dispositions peuvent aller vers une fragilisation de cette confiance. Donc, vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, hein, ces recommandations du comité d'éthique. Ça
d'autant qu'on
met, voilà.
Rué, on a fait un billet de blog sur le monde.
Donc, ce que l'on souligne, c'est que une exacerbation de la compétition entre chercheurs, surtout dans une situation où finalement vous êtes précaire, pour obtenir un poste stable, il faut que vous prouviez que vous êtes excellent, le plus performant. L'excellence en recherche, c'est quelque chose qui n'est pas évident à mettre en œuvre. Donc, on va prendre des mesures qui sont le nombre de publications, par exemple. Et ça entraîne des mauvais comportements. Ça risque d'entraîner des mauvais comportements qui sont de l'ordre du plagiat, de la falsification des résultats, qui, au bout du bout, mineraient. Donc, vous voyez, des comportements non intègres et mineraient la confiance dans la science.
Enfin, de vous interrompre, Philippe Ascanasi, mais les fraudes n'ont pas attendu le statut précaire ou non précaire.
Non.
Juste cette semaine, en plus, ou en tous les cas, il y a très très peu de jours, a été réglée cette affaire de l'ex-président du CNRS, hein, Anne Perroche, qui était précisément accusée de fraude scientifique. Elle a été sanctionnée par 2 semaines de mise à pied. Donc, on voit bien que l'intégrité scientifique est au-delà de la précarité de.
Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que cette question de précarisation et d'augmentation de la compétition, ce n'est pas récent. Ça a 20-30 ans. Et c'est mondial, c'est un phénomène mondial qui, partout, pose le même problème et on trouve la même racine. Pourquoi il y a tant de problématiques au sein des sciences de la vie, dont vous parliez du cas d'Anne Perroche, je ne rentrerai pas dans le cas en particulier, mais il y a une des premières disciplines où la compétition s'est exacerbée, où la précarisation s'est exacerbée, c'est dans ce champ-là, et c'est dans celui-là où on trouve le plus de difficultés en termes d'intégrité. Et il faut bien avoir en tête que ce n'est pas une problématique franco-française. Aux États-Unis, c'est assez amusant, tout à l'heure on parlait de Uber et de la Californie, mais on trouve la même géographie. En Californie, il y a aujourd'hui des grèves très importantes au sein de donc, ce qu'on appelle le University of California, des précaires de l'enseignement supérieur, avec par exemple des rétentions de notes. Ça fait penser à des éléments français. Ils ont été sanctionnés, certains ont été licenciés, ce qui fait que le mouvement est encore plus important. En Grande-Bretagne, il y a des grèves maintenant depuis un mois dans 74 universités. C'est une sorte de révolte mondiale contre finalement une démarche qui menace au bout du bout la science. Donc là, c'est une forme un petit peu de sonnette d'alarme. Il ne faut pas aller trop trop loin. On n'est pas, si vous voulez, contre le fait qu'il y ait, disons, de la souplesse, contre le fait non plus qu'il y ait des relations avec le secteur privé. C'est tout à fait normal. Mais être dans une dynamique où, finalement, du fait de cette compétition, on va uniquement se tourner vers les sujets à la mode pour rapidement produire et laisser de côté une recherche de plus long terme, eh bien, c'est quelque chose de dangereux. Vous voyez, aujourd'hui, on a la problématique du coronavirus. Lors du Stras, c'était, il fallait faire de la recherche dessus. Il y a eu des financements qui ont été donnés. Et puis, après... Ben, finalement, il y a plus le SRAS étant passé, on a laissé un petit peu à l'abandon le type de recherche sur ces virus. Et du fait de la compétition, du fait d'une recherche basée uniquement sur les projets à la mode, eh bien, on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec des besoins qui finalement se révèlent. Et ça aussi, c'est une des problématiques. La science, il faut qu'elle garde sa très grande diversité, que ce soit sur les questions de société, de sciences dites dures, pour que lorsque les difficultés arrivent, eh bien, on ait une base suffisante pour aussi les traiter. Donc, vous voyez, notre problématique, c'est une problématique de construction de la recherche dans son intégrité, dans sa diversité. Et cette diversité-là, c'est une assurance pour aussi nos sociétés face à des chocs qu'ils soient sociétaux, géopolitiques, médicaux, environnementaux, scientifiques.
Philippe Askenazy est notre invité ce matin, économiste du travail, chercheur au CNRS, et on vient de l'entendre, membre du comité d'éthique du CNRS. Vous restez avec nous, Philippe Askenazy, c'est le dernier quart d'heure des matins du samedi. Très bien. Vous avez le droit de boire un peu de café, un peu d'eau, et d'écouter la suite.